CDI Podcast.
Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur de légende. Toujours la même équipe autour de la table, Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Salut Mickaël.
Et moi-même donc, Mickaël Icard, journaliste reporter pour CDI Média. Le portrait du jour, Sylvain, pourrait être un peu le portrait type de l'entrepreneur, tant le personnage coche toutes les cases des images que l'on se fait de la success story. Une réussite basée sur une toute petite idée au départ et énormément, vraiment, vraiment beaucoup de ténacité ont valu à James Dyson de devenir incontournable avec sa marque éponyme. Découvrons son histoire.
CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Alors tout commence pour James Dyson en 1947 à Cromer en Angleterre.
Oui, en effet, il est né en 47 dans une petite bourgade de l'est de l'Angleterre, dans une famille plutôt aisée. Ses parents sont professeurs, plutôt intellectuels, plutôt un cadre familial, disons porteur ou en tout cas sécurisant. Donc c'est un garçon un peu atypique, assez solitaire, assez réservé, pas très scolaire. Il n'a jamais eu des bonnes notes, il n'a jamais accroché aux disciplines intellectuelles et qui se passionne pour deux choses, donc la course à pied et le dessin. Donc c'est deux disciplines assez solitaires qui correspondent bien à son caractère. Et donc comme on l'a dit, les études c'est pas forcément son truc. Et donc il décide de s'orienter un peu contre l'avis de ses parents qui en tant que professeur auraient bien aimé que leur fils fasse de prestigieuses études. Et donc il décide de s'inscrire à Londres dans une école de dessin en 1966. Et dans cette école de dessin, il va se rendre compte qu'il va découvrir en fait le design, un débouché professionnel auquel il n'avait pas forcément pensé, parce que lui c'était juste le dessin en tant que tel, et il se rend compte qu'on peut faire du dessin industriel, on peut faire de la publicité, donc ça lui ouvre un peu, disons, de nouvelles opportunités professionnelles.
Mais il lui faut des compétences scientifiques pour ça.
Il lui faut des compétences scientifiques, donc il va faire une autre formation en 67 au Royal College of Art, donc toujours à Londres, donc on est toujours sur du dessin, mais disons plus appliqué sur du dessin industriel, des maquettes, des choses comme ça. Et donc il fait un premier stage plutôt dans le bâtiment, donc il dessine un projet de théâtre, alors qu'il ne sera pas retenu parce qu'il est trop cher. Mais c'est une expérience très importante parce qu'il va rencontrer Jeremy Fry, donc, qui n'est pas très connu en France, mais en Angleterre qui est un peu plus connu. C'est un entrepreneur, un innovateur, un peu touche-à-tout, c'est un peu une sorte de professeur tournesol qui a toujours plein d'idées, qui est toujours prêt à investir dès les petits jeunes, à investir dans les startups. À l'époque, on ne disait pas trop startup, mais enfin, c'est vraiment un personnage assez bouillonnant. Et
ça va devenir un peu son mentor.
Voilà, ça va devenir un peu son mentor. Il va un peu prendre le jeune James Dyson sous son aile. Et notamment, il va lui proposer un emploi dans son entreprise. Donc Jeremy Fry, qui ne connaissait rien au bateau, il a eu une idée de faire des bateaux de débarquement militaire, de transport de troupes militaires.
Bon, d'accord.
Je ne serai pas trop en dire plus, mais enfin voilà, je connais pas le sujet. Mais il a cette idée et il a besoin d'un jeune pour faire un peu le plan de son bateau, le designer, etc.
Donc à la fin de ses études, James Dyson, hop, il se fait embaucher directement par la société de Jeremy Fry.
Voilà, en 69, il se fait embaucher pour designer, disons, ses bateaux, et ensuite pour les vendre. Donc c'est un peu un saut dans l'inconnu, parce qu'il connaît rien au bateau, il connaît rien à la vente.
Bah, tous les deux, ils ne connaissent rien au bateau, et ils décident quand même de faire des bateaux.
Voilà, c'est totalement des autodidactes, c'est un peu la démarche de Jeremy Fry, qui est vraiment un touche-à-tout, qui a une idée, il la lance. Alors souvent il se plante, mais des fois ça réussit. Et donc les débuts sont un peu difficiles parce que James Dyson, il connaît pas grand chose à la vente, pas grand chose au bateau, il est tout jeune, il est pas encore très professionnel. Donc il va mettre un peu de temps à rentrer dans le métier, mais finalement il va réussir.
En plus que là il faut vendre aux militaires.
Voilà, il faut vendre aux militaires ou alors à des compagnies pétrolières qui ont besoin de transporter leurs ingénieurs ou leurs ouvriers sur des plateformes pétrolières. Enfin c'est vraiment un marché de niche auquel lui ne connaît rien. Donc il met un peu de temps à débuter, mais finalement il va en vendre. Hein. Il va vendre jusqu'à 250 exemplaires dans le monde entier de ses bateaux. Voilà, ça va devenir en fait une belle réussite, malgré des débuts un petit peu poussifs.
Et ça va conforter une bonne place du coup dans la société.
Voilà, donc il devient un cadre commercial, disons, de très, très en vue dans cette... C'est une PME, hein, mais enfin, il fait vraiment son trou, il commence à bien gagner sa vie. Mais disons, le virus de l'entrepreneuriat est là et il va vraiment relancer sa carrière sur un coup de dé.
Et oui, puisqu'il va décider de tout quitter en 1974.
Voilà, donc en 74, donc il était cadre dans cette entreprise de bateaux et il démissionne pour créer une entreprise de fabrication de brouettes.
De brouette.
Voilà. Donc, quel rapport avec les bateaux, Mickaël, et bah, il y en a aucun.
Ah là là.
C'est, on est toujours dans l'esprit entrepreneurial à la Jeremy Fry et à la James Dyson.
Il a eu l'idée en faisant de la brouette, peut-être ?
Il a eu l'idée en construisant sa maison, en bricolant sa maison. Il trouvait que les brouettes sur le marché n'étaient pas bien, quoi. Enfin, elles n'étaient pas assez stables, on ne pouvait pas mettre assez de choses dedans. Enfin, ça ne lui plaisait pas. Et donc, il a fait sa brouette à lui. Donc, il appelle la Ball Barrow. Donc, brouette en anglais, c'est wheelbarrow, donc wheel, la roue.
Pour la roue, oui.
Voilà. Et lui, il l'appelle Ball Barrow parce qu'en fait, la roue est en forme de ballon. Donc, je ne saurais pas trop vous le décrire, mais vous pouvez voir sur Internet.
Je vois exactement ce que c'est. Du coup, elle doit rouler un peu mieux.
Elle est plus stable. Mais alors, il y a cette roue en forme de ballon, mais il y a aussi d'autres inventions avec des pieds pleins, en fait, pour qu'on puisse mettre, par exemple, du sable dans les pieds. Enfin, c'est assez difficile à décrire. Il faut vraiment voir l'objet. Elle est fluorescente pour qu'elle se voit mieux sur les chantiers. Donc c'est vraiment un objet un peu atypique.
C'est complètement original. Oui. Est-ce que ça marche, ça ?
Alors c'est un peu comme les bateaux, je dirais. Ah. Les débuts sont poussifs parce que évidemment les gens se disent cette brouette elle est un peu bizarre. Elle est très chère. Hein. Ça a toujours été la stratégie Dyson, c'est-à-dire on fait des produits de très haute qualité, très chers. Elle est trois fois plus chère qu'une brouette standard. Et au début, les magasins de bricolage, ils regardent ça un peu avec un œil un peu sceptique. Donc les débuts sont très difficiles. Et petit à petit, ils se disent, puisque les grossistes et les magasins de bricolage ne croient pas à mon projet, je vais les court-circuiter, je vais faire de la vente directe. Et là, ça décolle. Ça décolle, puisqu'effectivement, il a un produit cher, mais qui fonctionne bien. Les gens qui l'utilisent sont contents. Et donc, il y a exactement comme les bateaux, hein, un début poussif, et puis une fois qu'on comprend que le produit est intéressant, ça décolle, et ça devient un vrai succès, il devient le numéro 1 en Angleterre du marché de la brouette. Alors qu'un petit marché, mais enfin, c'est quand même une belle réussite.
Et on ne l'a pas dit, mais il avait besoin de financement pour se lancer ?
Oui, il a essayé de lancer avec son beau-frère, hein, Stuart Kickwood.
Il n'a pas demandé à Jeremy Fry, là ?
Alors, pas sur ce coup-là, il va lui demander après, mais là, il avait un petit pécule, il s'est lancé avec son beau-frère, donc ils ont créé la Kirk Dyson Company, quoi, ils ont pris leurs deux noms. On verra qu'après, ça va mal se passer, il va se brouiller avec son beau-frère, d'où l'idée qu'il ne faut pas toujours investir avec des proches, parce que c'est souvent le meilleur moyen de se fâcher. Donc, le problème du marché de la brouette, c'est qu'une fois qu'on en a une, on n'en rachète pas forcément une deuxième.
Quoi. Eh oui, évidemment.
On emprunte celle du voisin. Donc en fait, il y a un moment un peu d'euphorie hein, où les ventes s'envolent. Et puis après, ça stagne, les ventes s'arrêtent. Et il va essayer de se lancer aux États-Unis, donc lancer son concept aux États-Unis. Mais on verra que ce sera souvent son problème. Il va se faire piquer son brevet par un commercial un peu véreux qui prend son brevet. Il y a des procès qui traînent. Alors bon, lui, il est en Angleterre, il doit faire des procès aux États-Unis, c'est très cher. Hein,
donc du coup, il vend sa brouette, enfin son concept sous un autre nom. Et...
Alors c'est très compliqué, il y a des démêlés juridiques, il essaie de lancer sa brouette sous un autre nom, mais il y a des attaques sur les questions de droits de propriété intellectuelle. Il se ruine en fait en frais d'avocat, et sa compagnie coule, tout simplement. Hein, en 79, puisque il y a une brouille aussi avec bien sûr les actionnaires, hein, son beau-frère, d'autres actionnaires qu'il avait fait rentrer, qui sont pas contents, qui vont lui le virer, et ensuite la société qui va péricliter, hein, un peu comme Steve Jobs en fait, qui s'était fait renvoyer de chez Apple. Donc fin 79, il se retrouve à la case départ. Hein,
mais il avait une idée en tête.
Voilà, mais en fait, évidemment, tu l'as dit, Mickaël, James Dyson, c'est un peu l'archétype du bricoleur et de l'entrepreneur. Donc, il se retrouve, en gros, on est en 1980, il se retrouve à nouveau au chômage, mais il avait une autre idée, qui est cette fois-ci une idée d'aspirateur.
Ah, et du coup, l'aspirateur, ça nous dit quelque chose pour Dyson.
Oui, voilà, on commence à avoir le produit, j'ai envie de dire, final, celui auquel on associe Dyson.
Donc, quelle était son idée ?
Alors oui, en fait, l'idée, on commence à comprendre le personnage, hein, c'est-à-dire qu'il voit quelque chose dans la vie de tous les jours qui ne marche pas très bien, et il se dit, je vais faire mieux. Et donc, tout simplement, en aspirant chez lui, il trouvait que les aspirateurs standards n'étaient pas très performants, notamment qu'ils perdaient du souffle assez vite avec l'histoire du sac qui se remplit, qui s'encrasse, etc. Et donc, il se dit, je vais faire un nouvel aspirateur. Et donc, il couple ça avec une technologie qu'il avait dans son usine de brouette. Il avait mis des systèmes d'aération pour enlever les particules de plastique qui résultaient donc de la fabrication des brouettes. Et il se dit, ce système d'aération, alors que je serai incapable de vous décrire précisément, il décide de l'appliquer à l'aspirateur. Donc, avec un peu toutes ces idées, il commence à bricoler des prototypes d'aspirateurs. Donc, il a fait plus de 5000 modèles d'aspirateurs.
Plus de 5000 ?
Voilà, plus de 5000 hein, au début des années 80. Donc, il bricolait ça dans son garage.
Mais ça prend du temps.
Voilà, sa femme travaillait à côté pour gagner un peu d'argent, parce que lui, évidemment, ne gagnait pas un sou. Et donc, il améliore, avec toujours dans son idée de faire un produit très cher, mais de très grande qualité. C'est toujours son objectif. Donc, il parvient à un prototype qui lui convient, et il essaie évidemment de le vendre. Donc, au début, de trouver des industriels pour le fabriquer, puisque lui, il a pas beaucoup de moyens, donc il cherche des industriels pour le fabriquer.
Il lance sa société en 1980, qui s'appelle la Air Power Wacool Cleaner Company.
Voilà, il avait créé sa société, mais qui pour l'instant ronronne, parce que c'était une société où juste lui bricolait ses prototypes. Donc il n'y avait pas encore de vente, c'était vraiment...
Il a besoin d'être associé à des industriels qui peuvent produire l'aspirateur en grande quantité.
Voilà, parce que lui, au début, se dit... n'a pas les moyens. Alors, il y a Jeremy Fry qui investit un peu d'argent dans sa société, mais il n'a pas encore les moyens de fabriquer vraiment en grande série son aspirateur. Il cherche des industriels, ça marche pas très bien. Les industriels sont pas trop emballés parce que les industriels de l'aspirateur, un des business, c'est de vendre des sacs. Et donc, lui, il a un modèle où il n'y a plus de sacs. Donc, un peu la vache à lait des fabricants d'aspirateurs, lui, il l'enlève. Donc, on comprend que dans le marché de l'aspirateur, personne n'est trop enthousiaste de le voir arriver. Alors, il finit par trouver un contrat aux États-Unis, mais à nouveau, ça se passe mal d'un point de vue juridique, puisqu'il y a des associés qui essaient de lui prendre son brevet. Alors, c'est une histoire très compliquée et très embrouillée, mais simplifiant en disant que ça se passe pas bien. Et après, il trouve un premier contrat, donc là, qui va être un peu plus porteur au Japon. Donc, les Japonais sont intéressés et son aspirateur va connaître un vrai petit succès au Japon. Hein. Donc, on est dans les années 80. Mais là encore, c'est des situations compliquées parce qu'il doit signer des contrats en japonais. Alors lui, il est à Londres, en Angleterre en tout cas, du côté de Londres. Il doit aller au Japon, signer des contrats en japonais. Il se ruine en frais d'avocat, de traduction. Donc c'est assez compliqué. Et ce qu'il décide, c'est de vendre tout simplement ses droits sur son aspirateur au Japon, d'avoir un petit pécule et avec ce petit pécule, de fabriquer lui-même ses aspirateurs.
D'accord, donc il laisse son bébé un peu au Japon.
Voilà, il le vend aux Japonais.
Il le vend aux Japonais et il décide donc du coup, à la fin des années 80, de revenir un peu à la case départ, mais avec un peu d'argent en poche.
Voilà, c'est ça. Donc en 91, il crée donc Dyson, qui va devenir l'entreprise qu'on connaît encore aujourd'hui, avec donc un peu d'argent en poche et aussi la certitude que son produit marche. Puisqu'il l'a vu sur le marché japonais, il a vu que même un aspirateur trois fois plus cher que les autres, s'il est vraiment de bonne qualité, ça peut fonctionner. Et donc avec cet argent, il lance une petite usine d'aspirateurs. Et donc là, on va avoir un scénario qu'on commence à connaître avec lui, c'est-à-dire que les débuts sont très poussifs, parce qu'il a un produit cher, novateur, qui est jaune, ça ne ressemble pas du tout à un aspirateur tel qu'on le connaît, qui est transparent, on voit l'intérieur, donc ce qui paraît un peu aberrant, puisque les gens se disent on n'a pas envie de voir sa poussière dans l'aspirateur.
Personne
ne
veut voir ce qu'il aspire,
voilà.
Oui.
Voilà. Alors lui dit le contraire, lui dit comme ça les gens voient qu'ils ont aspiré beaucoup de choses. Donc il retourne le...
Ah oui, puis il voit que ça tourne,
voilà, il voit que ça aspire, qu'il y a quelque chose qui a été aspiré. Donc les débuts sont un petit peu poussifs, et... Il persévère parce qu'il sait qu'il tient un bon produit. Et en fait, ça va littéralement exploser en 2 ans. Donc en gros, en début 94, il est totalement inconnu. Et fin 96, il a 50% du marché anglais de l'aspirateur. Donc en fait, dès que son produit commence à prendre, dès qu'il y a un engouement, et dès que les gens commencent à en parler, et dès que les gens comprennent la qualité du produit, tout de suite, c'est le succès énorme. Et bon, comparé aux fois précédentes, là, c'est un succès qui va être durable.
Il avait compris, il avait la bonne idée. En fait, les industriels du monde de l'aspirateur étaient frileux. Et lui, il a tout bouleversé d'un coup.
Oui, ils étaient frileux parce que, comme on l'a dit, leur rente était de vendre des sacs. Ils vendaient une fois un aspirateur et après, ils vendaient les sacs tout au long de la durée de vie de l'aspirateur. Et lui, il s'est dit, je vais faire un produit de très bonne qualité, très cher. Donc, je gagne de l'argent qu'une seule fois en vendant mon aspirateur. Mais les gens vont quand même l'acheter parce qu'ils comprennent que le produit est meilleur. Il était meilleur aussi, par exemple, pour les asthmatiques parce qu'il laissait beaucoup moins de poussière en suspension dans l'air. Et donc, les gens comprennent aussi que s'ils ont pu acheter des sacs pendant 10 ou 15 ans, d'un point de vue financier, ça peut être aussi intéressant.
Et derrière, évidemment, il décide de se lancer à l'international.
Voilà, donc évidemment, il ne reste pas sur le marché uniquement anglais. Hein, il s'implante en France, en Europe, dans le monde entier. Hein, Dyson, aujourd'hui, est bien connu en France. Donc, il s'implante à l'international et il élargit aussi sa gamme de produits. Hein. Donc, il va faire des sèche-mains, il va faire des purificateurs d'air, il va faire différents
des sèche-cheveux.
Des sèche-cheveux, enfin, tout ce qui brasse de l'air. Et même après, il va faire tout ce qui est produit électronique pour la maison. Enfin, Dyson, enfin, tout le monde connaît maintenant. Hein, vous allez dans n'importe quel magasin de meubles ou de mobilier, et on voit Dyson partout. Il a tenté aussi de se lancer dans la voiture électrique. Bon, ah. il a un peu rétro-pédalé parce qu'il a vu que c'était un peu compliqué pour lui. Mais voilà, Dyson, maintenant, c'est vraiment devenu une multinationale avec à peu près 12 000 salariés. Et donc, cette fois-ci, il a vraiment réussi son pari et ça ne s'est pas essoufflé.
Et James Dyson est devenu le milliardaire le plus riche de Grande-Bretagne.
Oui, alors un des plus riches parce que donc, son groupe n'est pas coté en bourse. Il a appris ses expériences passées. Il n'a pas ouvert le capital.
Du coup, on ne peut pas vraiment compter.
Voilà, donc c'est plus difficile d'évaluer parce que quand une entreprise est cotée en bourse, on prend le prix de l'action, on prend la part que possède l'entrepreneur en question. Et voilà, et on a la fortune assez facilement. Sur un groupe non coté, c'est plus difficile. Donc il y a différentes estimations qui circulent, mais effectivement, il a une fortune, on va dire, entre 10 et 20 milliards de livres. Donc voilà, c'est un des entrepreneurs, en tout cas les plus riches de Grande-Bretagne.
Et pourtant, il ne vit pas une vie de milliardaire.
Oui, c'est quelqu'un qui est resté assez, on va dire, assez simple. Hein. Il n'y a pas le côté bling-bling. Alors, il a bon, une belle maison, etc. Mais il n'y a pas cette envie, ce désir forcément d'afficher constamment sa réussite à la une des tabloïds. C'est pas Branson, si vous voulez. Hein. C'est pas le fondateur de Virgin qui, lui, se met en scène pour faire sa pub. Il a gardé ce tempérament qu'il a toujours eu assez discret, un peu taiseux.
Alors Sylvain, on peut vraiment dire que James Dyson nous a prouvé qu'il ne faut jamais baisser les bras et s'avouer vaincu quand on croit à ses idées. Merci pour tout ça Sylvain.
Merci à toi.
Je rappelle que cette histoire est tirée du 3e tome de ta série de livres Entrepreneurs de légende qui est édité aux éditions Hendrick B. Et vous pouvez évidemment écouter tous les épisodes de Entrepreneurs de légende, le podcast sur toutes les plateformes audio ou sur CDI Podcast. On vous dit à bientôt.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.